et je ne vais pas vous en inventer une, mais je vais vous donner une piste de réflexion. Vous savez ce que c'est le Fonds monétaire international, hein ? Cette institution qui est basée à Washington, dont on nous dit tout le temps que c'est les Américains qui la contrôlent et qui sont tout puissants. Entre parenthèses, c'est une parenthèse qui n'a rien à voir avec le sujet, mais enfin j'aime bien de la faire, c'est faux. Les pays de l'Union européenne détiennent 30% des parts du Fonds monétaire international, et si vous regardez les statuts, c'est exactement la minorité de blocage. Mais on ne s'en sert pas. Et donc on préfère soutenir les politiques du Fonds monétaire international. Or, vous savez que le Fonds monétaire international, il intervient notamment dans les pays endettés et qu'il applique à ces pays, ce qu'il n'applique pas évidemment aux États-Unis qui sont super endettés, les plans d'ajustement structurel, qui sont des plans d'assainissement budgétaire. L'Union européenne soutient les plans d'ajustement structurel. Si vous lisez l'accord de Cotonou qui a été signé en l'an 2000 entre la Commission et 77 pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, vous verrez à l'article 67 qu'il est dit les parties sont tenues d'appliquer les plans d'ajustement structurel du FMI. Pour le FMI, c'est quoi les erreurs manifestes dans ces plans d'ajustement structurel ? Les budgets de santé, les budgets sociaux, les budgets éducatifs, les budgets culturels. On est prévenu. Alors, regardez ici deux articles, vous me direz, c'est normal, ils se suivent, c'est bien. Mais j'ai voulu surtout vous montrer que dans le premier, le 203, on nous propose quelque chose de très sympathique, une stratégie coordonnée pour l'emploi, pour promouvoir une main-d'œuvre qualifiée, qui serait contre. Mais au 204, on nous dit que pour appliquer le 203, ça doit se faire d'une manière compatible avec les grandes orientations des politiques en vertu de l'article 179, qui nous parle d'une une économie de marché où la concurrence est libre et non faussée, retour à la case départ, une nouvelle fois un objectif sympathique et subordonné à cette économie de marché à la manière OMC. Alors maintenant, voici un des deux articles les plus importants en matière sociale. Le 209, je vous le montre en trois morceaux parce qu'il est long. Dans ce premier morceau, nous apprenons que l'Union et les États membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, et puis je ne vais pas lire tout, vous avez sous les yeux, mais je voudrais attirer votre attention, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ils ont vérifié pendant 4 mois la valeur des mots. Qu'est-ce qu'on nous dit si on est attentif à la valeur des mots ? C'est un vrai scoop. Les États et l'Union européenne sont au courant qu'il existe des droits sociaux fondamentaux. Oui, oui, ils en sont conscients. Ils savent que ça existe, ils sont informés. On ne nous a pas dit, on n'écrit pas qu'ils y adhèrent, qu'ils y souscrivent, qu'ils les font leur. Non, ils sont conscients qu'ils existent. Et ils nous disent même qu'ils savent où. Dans la charte sociale de Turin et dans la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux. Mais on ne nous dit pas « l'Union européenne adhère à la charte sociale de Turin ». On ne nous dit pas « l'Union européenne adhère à la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux », alors qu'ailleurs, dans le texte, vous verrez qu'elle adhère à telle ou telle convention. Ici, on ne le fait pas. Et les droits sociaux fondamentaux ne sont pas proclamés, ils sont désignés comme des objectifs à atteindre. C'est tout différent. Et si, par hasard, on avait envie de les atteindre, il faut quand même tenir compte de la nécessité de maintenir la compétitivité de l'économie. Et ce n'est pas tout. Et là encore, une fois, in coda venenum, hein, c'est dans la fin que se trouve le venin. C'est dans la fin de cet article que se trouve, pour moi, la raison qui m'a fait basculer. Et ça, c'est pas possible. Ça, maintenant, je dis non. Parce que nous apprenons que désormais, c'est le fonctionnement du marché qui favorisera l'harmonisation sociale. Et là, pour tous ceux qui sont attachés à la construction européenne, il faut se rappeler pourquoi on a commencé cette aventure. Pourquoi 3 petits pays et 3 grands en 1957 se sont mis ensemble ? Parce que nous avions les mêmes standards de vie. Parce que nous avions la même aspiration à les améliorer. Parce que nous avions la même conception de l'égalité des chances. Et que nous avions la même conception des services publics, et que nous voulions avoir un dénominateur commun toujours plus élevé par une technique qui s'appelle l'harmonisation. Désormais, l'harmonisation ne relèvera plus de la volonté des États, mais du marché. Mais la logique du marché est à l'opposé de celle de la volonté d'avoir le plus haut standard de vie. Ça n'intéresse pas les acteurs du marché. Ce qui intéresse les acteurs du marché, ben c'est le profit, c'est la rentabilité. C'est normal, c'est leur logique. Mais si on place l'harmonisation sociale sous la coupe de cette logique-là, ce qu'on va rechercher, ça ne va pas être le mieux, ça va être le moins-disant fiscal, le moins-disant social, le moins-disant environnemental. Ce qui veut dire qu'on va placer l'harmonisation, instrument de la construction européenne, de l'égalité entre les peuples d'Europe, à la merci des lois du marché. On remplace l'harmonisation par la compétition. On inverse radicalement le processus de construction européenne. C'est une véritable révolution qui se trouve dans ces quelques lignes et qui, pour moi, justifie que je rejette ce texte. Parce que ce n'est pas pour ça qu'on a fait l'Europe. Et j'ai même peur qu'avec ça, on programme le démantèlement de l'Europe. Parce que la compétition entre les peuples va amener des frustrations, va amener des déceptions qui se traduiront dans des pays qui n'ont pas nos traditions démocratiques, qui n'ont pas peut-être l'attachement sentimental à l'idée d'Europe, par autre chose en termes électoraux, qu'il faut redouter. Alors voilà l'autre article, le 210. Et c'est un article dont j'ai très peur que la lecture fasse illusion. Parce que c'est le catalogue le plus complet de toutes les politiques sociales possibles et imaginables. Tout y est. L'amélioration du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs, les conditions de travail, la sécurité sociale, la protection sociale des travailleurs, la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail, l'information et la consultation des travailleurs, la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, les conditions d'emploi des ressortissants des pays tiers, on a même pensé à eux, l'intégration des personnes exclues du marché du travail, ça vient tard, mais ça vient à l'égalité entre femmes et hommes, la lutte contre l'exclusion sociale, la modernisation des systèmes de protection sociale, tout y est. Tout y est. Mais si d'aventure on veut le mettre en œuvre, il faut l'unanimité. Et c'est ici qu'il faut répondre à la question que d'aucuns trouvent difficile. Pourquoi contestez-vous ce texte alors que la Confédération européenne des syndicats le soutient ? C'est ici qu'il faut donner la réponse à cette question. Parce qu'il faut savoir pourquoi ils ont soutenu ce texte et quelles ont été les motivations. Mais ça, nos journalistes ne le disent pas et les partisans de ce texte ne le disent pas non plus. Je vais commencer par la Grande-Bretagne. Vous le savez, Tony Blair, quand il était candidat pour la première fois Premier ministre, il a eu l'honnêteté, la franchise de dire « Si je deviens Premier ministre, je ne reviendrai pas sur les bouleversements provoqués par Margaret Thatcher et John Major. » Nous avons assez de social comme ça, que l'Europe ne vienne pas nous en imposer davantage. Et fait rare dans l'histoire, voilà un Premier ministre qui a fait ce qu'il avait promis. Quand on a eu la convention, et quand on a eu après la conférence intergouvernementale, ils ont été clairs, les Britanniques. Ils l'ont dit haut et fort. Pas d'Europe sociale. Nous n'en voulons pas. Et donc, nous exigeons que l'on décide en la matière à l'unanimité, à laquelle nous ne participerons pas puisque nous n'en voulons pas. Mais quand on vous dit il faut qu'on décide à l'unanimité, qu'en même temps on vous dit nous n'y participerons pas, ça veut dire que cette unanimité, elle est destinée à bloquer. Voilà la raison britannique. Et je vous signale au passage que les trade unions, les syndicats britanniques, se sont abstenus à la Confédération européenne des syndicats. Maintenant allons vers le nord, les pays scandinaves. Vous savez comme moi que les pays scandinaves, en dépit de réformes récentes assez douloureuses, conservent le niveau de protection sociale le plus élevé d'Europe. Alors eux, le raisonnement de leur parti politique, de leur gouvernement et de leur syndicat, il est tout à fait différent. Il est de se dire, s'il y a aujourd'hui une harmonisation sociale, compte tenu qu'on vient de faire dans la précipitation l'élargissement, qu'on n'aide pas les pays qui nous ont rejoints à nous rattraper, puisqu'on a décidé... Enfin, il y a une volonté de ne pas augmenter le budget de l'Union européenne de plus de 1%. Toute harmonisation sociale européenne sera en dessous de ce que nous avons. Alors, ne me faites pas dire ce que je ne vous dis pas. Le traité n'obligera pas un État à modifier sa législation sociale, même s'il y a une harmonisation. Ça, c'est clair, on peut garder le système français, le système scandinave. Le traité n'oblige pas à ça. Mais la crainte... notamment des syndicats scandinaves, c'est que s'il y avait une harmonisation sociale européenne, le patronat chez eux s'en sert pour dire qu'il faut s'aligner sur la norme européenne, et comme la norme européenne en tout état de cause sera inférieure à la leur, ils seront tirés vers le bas. Et c'est ça que les syndicats scandinaves veulent éviter. Et c'est pour ça qu'ils disent qu'il faut soutenir ce texte qui impose l'unanimité pour avoir une Europe sociale. Comme ça, on ne l'aura pas tout de suite parce que les temps ne sont pas mûrs pour l'avoir avec des effets préjudiciables pour nous. Maintenant, allons vers le centre et l'est de l'Europe, les pays nouveaux, qui eux aussi viennent d'apprendre qu'on ne va pas faire pour eux ce qu'on a fait pour la Grèce, l'Espagne, le Portugal et l'Italie. Parce que si on vous dit pas d'augmentation du budget européen de plus de 1%, ça veut dire que les fonds structurels qui ont aidé ces pays-là à nous rejoindre, à nous rattraper quand ils nous ont rejoints, ben, ils vont pas être suffisamment approvisionnés pour les 10 qui viennent de nous rejoindre. Alors qu'est-ce qu'il leur reste, eux ? Ben, il leur reste ce qu'on appelle en économie les avantages comparatifs. En quoi sont-ils avantageux ? Ben parce qu'ils n'ont pas de fiscalité, ou très peu, parce qu'ils n'ont pas de loi sociale, ou très peu, parce qu'ils n'ont pas de contraintes environnementales, ou très peu. Et que pour eux, c'est tout ce qui leur reste pour attirer des investisseurs chez eux et créer des emplois. Et donc qu'on ne vienne pas leur imposer une législation sociale, ça voudrait dire qu'il faudrait mettre de la fiscalité pour la payer, qu'on ne vienne pas leur imposer des contraintes environnementales, ça dissuaderait les investisseurs. Et donc pour cette raison-là, eux aussi soutiennent l'unanimité parce qu'ils savent que dans les années qui viennent, en tout cas, on ne leur imposera pas des contraintes alors que par ailleurs, on ne leur donne pas les moyens de nous rattraper. Voilà les motivations. C'est assez différent de dire tous les syndicats sont pour ce texte. Point. Il faut voir pourquoi ils le sont. Alors c'est peut-être triste et je serai triste avec vous si vous trouvez que c'est triste de constater que l'internationalisme prolétarien et la solidarité entre les travailleurs, ça reste encore un objectif lointain. Chacun a pensé à sa situation chez lui. Ça, c'est clair. Mais c'est comme ça. Ce qui veut dire qu'il y a encore du boulot pour faire l'Europe des travailleurs. Mais peut-être qu'il faudrait aussi balayer chacun un peu devant sa porte pour constater tout ce qu'on n'a pas fait pendant que le patronat, lui, faisait ce qu'il fallait faire pour être fort au niveau européen. Alors maintenant, ben je ne sais pas si vous le savez, mais réjouissez-vous, bonnes gens, vous avez la permission de travailler. Si, c'est mis là. Vous pouvez, c'est permis. Le droit au travail, ça devient le droit au travail devient la permission de travailler, le droit de travailler. Qu'est-ce que c'est consacrer un droit ? C'est créer une obligation. L'État ou une entité quelconque qui consacre un droit se crée l'obligation de le mettre en œuvre. Ici, l'obligation en cas de droit au travail, c'est de créer des emplois, de mettre à la disposition, par des techniques différentes, si les circonstances l'exigent, des emplois pour le plus grand nombre possible. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais on nous dit que ça, c'est un progrès, que c'est un pas en avant. Alors, moi, je suis peut-être un petit peu primaire, mais pour moi, un pas en avant, c'est un peu plus que ce qu'on a aujourd'hui. Un progrès, c'est une amélioration par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Alors, qu'avons-nous ? Mais sur le plan international, nous avons un texte que nous considérons comme le plus important de toute l'histoire de l'humanité, qu'on enseigne pratiquement dans toutes les écoles du monde, qui est la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'article 23, ce vieux texte de 1948, nous donne la description complète de ce que c'est le droit au travail, jusqu'y compris la protection sociale. Où est le progrès entre ce qu'on nous propose pour demain et ce que nous avons déjà ? Regardons, oui, mais on parle de texte. On compare un texte qui est celui qu'on nous propose avec un texte qu'on a.
Ça n'empêche pas, c'est sûr.
Mais ça, c'est un autre problème. Nous examinons un texte.
On nous propose un
texte et nous regardons les textes que nous avons déjà, que nous pouvons nous utiliser d'ailleurs, par exemple dans le cadre des organisations syndicales, pour exiger qu'ils soient appliqués. Dans la Constitution française, bien, nous l'avons, le droit au travail. Je vous signale, si vous ne le savez pas, que le préambule de la Constitution française, il a force de droit. Et celui-là, qui est dans la Constitution de la Ve République, 1958, reprend en fait le préambule de 1946, qui lui-même vient des travaux du Conseil national de la Résistance. Où est le progrès ? Qu'est-ce qu'on a en plus avec le droit de travailler par rapport au droit au travail qui est consacré dans des textes existants ? Maintenant, voyons la sécurité sociale. Là, c'est autre chose. C'est une autre formulation. L'Union reconnaît et respecte, puis c'est le droit des États à avoir un système de sécu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Réfléchissez un instant, la formule reconnaît et respecte. Allez, je suis l'Union européenne. Ici, il y a une série de pays qui ont un superbe système de sécurité sociale. Je les reconnais et je les respecte. Là, il y a toute une série de pays qui ont un système très médiocre de sécurité sociale. Je les reconnais et je les respecte. Et là, il y a des pays qui veulent changer, en plus ou en moins. Je les reconnais et je les respecte. Moi, je reste au balcon. C'est ça que ça veut dire. Je ne m'implique pas, je ne m'engage pas. Je prends acte. Mais j'ai le droit de déceler les erreurs manifestes. C'est ça le piège. C'est ça le piège. L'Union européenne ne prend pas d'engagement formel vis-à-vis des Européennes et des Européens en matière de sécurité sociale, mais elle est dotée de la capacité d'intervenir dans nos budgets si d'aventure la sécurité sociale est un facteur de déficit budgétaire. C'est ça le piège de cette Constitution. Alors encore une fois, par rapport à un texte existant, ben là, c'est clair. Et je pourrais vous donner un autre exemple. Bon, il y a la Constitution française, et puis j'ai pris 3 constitutions, mais j'aurais pu en prendre une douzaine, où sont consacrés le droit au travail, le droit à la sécurité sociale et à l'aide sociale. Où est le progrès? En fait, et je parle de la charte des droits fondamentaux, à part le droit à l'éducation et à la culture, vous ne trouverez pas le droit au logement. Vous ne trouverez pas le droit au travail. Vous ne trouverez pas le droit à un minimum d'existence, le droit à un salaire minimum garanti, le droit à une allocation de chômage, le droit à une pension de retraite. Ils n'y sont pas. Quand Jack Lang ou Lipietz disent qu'on a les droits sociaux, je les mets au défi de citer les articles où ces droits que je viens d'énumérer se trouveraient. Ils n'y sont pas. Ils n'y sont pas. Où est le progrès ?